À tous.
Alors attendez, toujours les petits trucs techniques. Là ça va. Ok. Alors quand on m'a demandé de faire le message, en fait, j'étais très contente. C'est toujours un privilège, c'est aussi une grande responsabilité. Mais j'avais plein de trucs sur le cœur, donc en fait le plus difficile ça a été de choisir. Et dans la prière de dire « Bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage ?» Parce que en final, il y avait plein de choses. Alors, il faut savoir que je vais vous faire un message d'édification, d'encouragement. Ça ne va pas être de la théologie brute et dure, hein, parce que ce n'est pas forcément mon domaine. Mais voilà, donc ce matin, j'espère vraiment vous encourager. Excuse-moi, j'ai touché au micro. Donc, en fait, ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est un peu la problématique « vivre ou exister ». Qu'est-ce qu'on va choisir ? Il y a une citation aussi qui était en anglais, mais qui disait en gros « Pourquoi tu es là sur Terre ? Vis ton appel ». Donc c'est vraiment ce à quoi je voudrais vous encourager ce matin. Donc j'ai une petite vidéo. Donc on a essayé de préparer la technique en avant, donc on espère que ça va marcher tout de suite. C'est un peu l'idée de... Aujourd'hui, on vit parfois notre vie à travers les autres. Donc finalement, on ne vit pas. On existe et c'est les autres qui vivent notre vie. Enfin, vous allez comprendre avec la vidéo, ça m'a parlé. C'est un peu aussi ça qui m'a aiguillée pour le partage de ce matin. Ça m'a fait réfléchir. Donc pardon d'avance, il y a 2-3 images qui sont peut-être un peu choquantes, mais bon, vous allez survivre. Un, deux. En attendant, on leur donne une dernière chance. Hier, j'étais à un séminaire, enfin, une petite conférence sur le travail et l'ambition. C'était très intéressant, d'ailleurs, je vais vous en parler. Et j'ai entendu deux petites blagues, on va dire. Je pense qu'on peut rire de nous-mêmes. Il disait, il y a deux choses qu'on n'entendra jamais dans l'église. C'est, je sais que c'est pas encore l'heure, mais puisqu'on est tous là, on va commencer un peu avant. Voilà. Et la deuxième chose qu'on n'entendra jamais non plus, c'est, venez, n'hésitez pas, il reste des places au fond. Voilà, c'était des petites blagues, j'ai trouvé ça très drôle parce que c'est souvent vrai, mais il faut savoir rire de nous-mêmes. On va réessayer. J'y vais ou pas ? On va essayer. Je sais pas, vous voyez pas grand-chose. Désolée pour la technique, j'abandonne.
Et on s'engage. C'est inutile.
Pourquoi ? Je sais jamais où sont le sort ici.
Comme ils disent, un de perdu, 10 de retrouvé. Aujourd'hui, on s'engage plus. C'est inutile. Comme ils disent, un de perdu, 10 de retrouvé. Et ça n'a jamais été plus vrai. Aujourd'hui, c'est aussi facile de se commander un être humain sur Tinder qu'un bouquin sur Amazon. T'es devenu... Ticker montre l'étendue de nos sentiments. Plus de jeu, plus de séduction, et surtout pas de romantisme. On a trop de choix. On passe trop de temps à évaluer les options. On croit que c'est bien d'avoir le contrôle, mais en vérité, on sait même plus ce que ça fait d'être satisfait. Le temps devient un ennemi qu'on regarde filer entre nos doigts. On voudrait tout faire, tout voir, tout vivre. On peut voyager en quelques clics, faire le tour de la Terre en quelques images. On peut regarder et envier la vie des autres. Voir où on n'ira pas, et regarder vivre ces gens qu'on ne connaîtra jamais. Et puis on déprime. Et on s'en veut de déprimer. Malgré tout, on rentre dans la danse, alors on sort nos plus beaux sourires pour se faire voir sur les photos de soirée. Montrer qu'on est beau, qu'on est libre, et puis surtout qu'on est heureux, même si en vérité, cette routine, elle nous abîme chaque jour un peu plus. L'amour devient affection, qui devient amitié. On s'attache même plus, on crée des relations à durée limitée, des sex friends, alors qu'en vrai, on n'est même plus des amis. Puis on se sépare, bien entendu, car notre couple n'est pas assez bien et notre vie pas assez parfaite. On se dit qu'il y a sans doute mieux ailleurs. Et on recommence. Match, message, regard, conversation banale. Café, rire qui sonne faux, ciné, sourire forcé, dîner, rencontre stérile, intimité, journée routinière minable et déprimante et... De se connecter aux autres, que les petits défauts des gens les rendent plus beaux et plus sincères. Mais c'est fini, parce que cette fois-ci, on va serrer les coudes et desserrer les poings. Tous ensemble, on décide d'arrêter de faire semblant. Enfin, on se déconnecte de Facebook. On éteint son portable et on boucle son sac à dos. Cette fois-ci, c'est pas sur YouTube qu'on va lever le pouce. La route se dessine à l'horizon, on est prêt. La voix des copains sera la plus belle des musiques et leur sourire le plus beau des cadeaux. Plus beau même que cette photo retouchée d'Instagram. On y va.
Voilà, donc la vidéo n'est pas parfaite, elle a ses limites, mais je trouvais ça intéressant dans le sens où, aujourd'hui, beaucoup se rendent compte des limites que ça peut avoir de vivre connecté, on va dire. On n'est pas en train de cracher dessus, attention, il y a un équilibre comme dans toute chose. Mais voilà, parfois beaucoup vivent à travers les séries qu'ils regardent, Facebook, son travail, enfin voilà, on peut vivre par procuration dans beaucoup de domaines. Et voilà, Dieu nous appelle à autre chose. Et dans Jean 10 à 11, que vous connaissez tous, Jésus a dit « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble à comment vivre cette vie en abondance, donc cette vie en Christ. Alors la première chose qu'il faut faire pour vraiment vivre en abondance, ça paraît paradoxal, mais c'est mourir. D'ailleurs, j'ai bien aimé, finalement, dans la vidéo, vous avez vu la dernière image qu'on voyait, ce que vous avez tous fait sur un PC ou un Mac, démarrer, arrêter. Pour commencer, il faut arrêter. C'est quand même intéressant. Bref, donc pour nous, c'est pareil. Pour commencer quelque chose de nouveau, il faut arrêter ce qui était ancien. Il faut mettre un terme à la vie passée. Donc avec Dieu, c'est dire, au revoir, adieu, et dire stop à la vie du péché et aller vers le nouveau. Donc c'est aussi ce qu'on appelle la repentance, tout simplement. Donc c'est se détourner, renoncer à ses anciennes voies, s'en détourner et aller de l'avant. On parle aussi de, après la repentance, prendre le baptême. Donc dans Galates 3, 26, 27, je vais prendre pas mal de versets, si vous avez le temps de les prendre, prenez-les, mais vous ne vous sentez pas coupable si vous n'y arrivez pas. L'idée, c'est de pas perdre trop de temps à chercher non plus. Maintenant, par la foi en Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous êtes revêtus du Christ. Je vais lire quelques versets, après je ferai des commentaires. Donc là, ce qui m'intéressait, c'était vous avez été baptisés pour le Christ, vous êtes revêtus du Christ. Ensuite, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Colossiens 3, 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je trouve ça intéressant ce verset d'ailleurs, parce qu'il nous parle du fait qu'on est mort, mais notre vie est cachée. C'est quand même intéressant, je trouve, de réfléchir à ça. Donc encore une fois, vous l'avez tous entendu, je ne vais pas vous donner une grande révélation ce matin, c'est des choses que vous avez déjà entendues, mais vraiment qu'on y réfléchisse à nouveau. Vraiment qu'on a besoin de mourir pour vivre la vraie vie. Et c'est vraiment une fois qu'on a tourné la page, que notre vie en Christ commence. Nous sommes en Christ et il est en nous. Ça, c'est vraiment important de réaliser ça, parce que je ne sais pas si on peut vraiment le comprendre, parce que c'est notre cœur qui peut l'accepter, mais on est en Christ et il est en nous. Et c'est intéressant aussi parce que, de la même manière, c'était la prière de Jésus pour nous. Dans Jean 17, 21, il est dit « Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Donc il demande qu'on soit un, et que lui qui est dans le Père, et le Père est en lui, il veut de nous la même chose finalement, parce qu'il y a plein de passages dans l'Écriture où vous voyez ça, que Christ est en nous, et nous sommes en Christ. Donc je pense que c'est quelque chose de vraiment clé, et je voulais aussi réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire être en Christ ? Parce qu'au final, c'est logique, vous l'avez déjà entendu, vous savez. Mais c'est quoi concrètement être en Christ ? Donc, une première chose, c'est que son esprit est en nous. Dans Ézéchiel 37, 14, normalement j'ai préparé les versets, il est dit, c'est le passage où les os reprennent vie. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. Donc je mettrai mon esprit en vous. Ensuite, dans Jean 11, 25, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Dans Romains 8, verset 2, « Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort ». Et dans le verset 10 et 11 de toujours Romains 8, « Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Alors j'ai pris ces différents versets parce qu'ils parlent justement du fait que nous avons l'Esprit de Jésus en nous. Et ça veut dire que si on a l'esprit de Jésus en nous, on a son esprit de vie, on a son esprit de résurrection, on a tout ce qui était en Christ, nous l'avons. Et en plus, c'est double dans le sens où on est en Christ et Christ est en nous. Quand j'avais été en Nouvelle-Zélande, j'avais été à une église un dimanche, parmi les autres, et j'avais eu une image qui avait été donnée qui m'avait bien parlé, donc j'espère qu'elle vous parlera. Être en Christ, c'est être sous ses lois. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la loi de vie, d'amour, de grâce, de pardon, etc. Tout ce qui va avec Jésus, de sa force aussi. Et donc être en Christ, c'est un peu comme si on était dans un avion. Quand vous rentrez dans un avion, vous tombez non plus sous la loi de la gravité, mais la loi de l'aérodynamisme. Donc ça veut dire que, vous volez. Vous êtes à des milliers de pieds au-dessus de la Terre, et vous volez. Mais si vous sortez de l'avion, en plein vol, est-ce que vous volez ? Un petit moment, mais bon, vous finissez par vous écraser. Vous volez vers le bas. Si vous sortez de l'avion, vous êtes sous les lois de la gravité et non plus de l'aérodynamisme. Donc, c'est exactement pareil avec Jésus. Quand vous êtes en Christ, vous êtes sous la loi du pardon, la loi d'amour, la loi de la grâce. On a beaucoup parlé de la grâce, ces derniers temps, on a eu un super message sur ça. C'est énorme, la grâce. On est sous cette loi qui nous donne la vie. Par contre, quand on sort de l'avion, quand on n'est plus en Christ, quand Christ n'est plus en nous, on est sous la loi du péché, la loi de la mort. Donc, tu pèches, tu meurs. C'est tout aussi simple que ça. On est sous la condamnation, on est sous la peur, on est sur tout ce qui va avec. Et donc, cette image, moi, m'a bien parlé, donc c'est pour ça que je vous la donne aujourd'hui. Être en Christ, c'est un peu ça. Toute image a ses limites, mais voilà. Être en Christ, c'est quand même être un avion. On est sous les mêmes... sous des lois différentes. Donc, croire, c'est la première étape, c'est rentrer dans l'avion et accepter le salut et rester en Christ, rester dans cet avion. Ensuite, donc on a dit, la première chose, c'était mourir, donc dire au revoir à son ancienne vie, commencer une vie nouvelle, rentrer en Christ. Et donc, la deuxième étape, c'est vivre. Alors, vivre, être en Christ, c'est très bien, mais ça ne s'arrête pas là. On ne vit pas juste pour être sauvé. Enfin, on n'accepte pas Christ juste pour être sauvé. Justement, c'est pour vivre. Et pour vivre cette abondance, Dieu veut que l'on vive dans tous les domaines de nos vies. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il ne veut pas qu'on s'arrête à être sauvé de justesse, quoi. C'est bon, je l'ai fait, et puis ça s'arrête là. Non, il y a quelque chose de plus. Dans Deutéronome 30, verset 15, on voit le passage où Dieu dit « J'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. » il nous dit « Vas-y, moi je veux que tu vives, moi je veux que tu sois à fond dans la vie. Je veux pas que tu te contentes de vivoter ou d'exister. » Il veut vraiment quelque chose pour nous de très fort. Petite parenthèse, la vie suppose une croissance. Qui aime bien les bébés ici? Qui aime bien son bébé, pour ceux qu'on a eu, on va dire, hein? Ceux qu'on a eu, vous n'aimez pas, là. On est d'accord qu'en général, normalement, tout le monde aime ses enfants, c'est quand ils étaient bébés, il n'y a pas de souci. Maintenant, qui voudrait que son bébé ne grandisse pas et qu'il reste un bébé pour l'éternité? Personne. Sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, pour vous, un peu désagréable, c'est-à-dire passer votre vie à changer les couches, à donner à manger, à vous réveiller à la nuit, à penser à ses besoins toujours, toujours, toujours avant les vôtres, forcément. Réveiller la nuit, calmer les peurs, sans fin, quoi. Un peu un cauchemar, quand même. C'est bien pour un temps, on est d'accord. Enfin, c'est bien. C'est pour un temps. Mais, c'est, voilà, faut que ça finisse, faut que ça grandisse. Et pour lui aussi, c'est important qu'il reste pas bébé toute sa vie, parce que sinon, ça veut dire que il va jamais découvrir des choses, il va jamais être autonome, il va jamais pouvoir apprendre les choses par lui-même, il va jamais pouvoir mettre en pratique les choses que vous lui avez appris, que vous lui avez enseigné. Ce serait dommage quand même. Et ben, c'est pareil avec Dieu. Dieu, il nous aime et il veut pas qu'on reste des bébés. Il nous aime, hein, quand on arrive à lui avec tous nos péchés, nos machins, et qui nous lave et qu'on est des beaux petits bébés là. Ok, ça va, mais il veut pas qu'on en reste là. Il veut qu'on grandisse, il veut qu'on apprenne à utiliser ce qu'il nous a donné, notre tête et notre cœur, pour faire des choix qui sont en accord avec sa parole. Il nous a donné sa parole, il veut donc qu'on apprenne de ça, qu'on apprenne de notre relation avec lui. Et voilà, ça c'est vraiment, je pense que faut pas... Paul dit, arrêtez, enfin, c'est bien, au moment où vous buvez du lait spirituel, mais après, il faut passer à la viande, il faut passer à des choses solides. Et je pense que c'est pareil, il y a un temps pour tout, il n'y a pas besoin de se mettre la pression, mais on n'est pas appelé à juste vivre sauvé de justesse, quoi. C'est se contenter des petits messages le dimanche et puis des 2-3 prières comme ça. Dieu veut qu'on vive une vie passionnante. Et attention, passionnante, ça ne veut pas dire juste aller aux réunions de l'église et puis lire sa Bible une fois par jour et prier 5 minutes de pas là. C'est bien plus que ça. Vivre, c'est vivre. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de développer un petit peu. Voilà, enfin, Dieu veut qu'on vive en abondance, qu'on ait la vie en abondance dans tous les domaines de notre vie. Personnel, relationnel, que ce soit relationnel avec lui ou avec les autres, familial, amoureuse, dans l'église et dans le travail. Ou d'autres domaines, j'oublie, le sport, les loisirs, voilà. Donc en toute chose, il n'y a pas de limite à ça. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans toute chose, il faut un équilibre. Et ça, c'est le plus dur, parfois, je pense, dans la vie chrétienne. C'est l'équilibre. Parce que c'est que, on n'est pas, justement, on dit qu'avec Dieu, c'est pas une religion, c'est une relation. Pourquoi ? Parce que la religion, c'est fais pas ci, fais pas ça. Il faut que tu passes 1h30 chaque jour. Il faut que tu te mettes à genoux, sinon tes prières ne monteront pas. Enfin voilà, c'est des règles les unes après les autres. Or, Dieu est un Dieu de relation parce que c'est tout le temps différent. Quand on prend dans la Bible, les guérisons ne se passent jamais de la même manière, même si ce sont les mêmes maladies. Dans tout ce que vous pouvez voir, au niveau des relations que Dieu a, quand il donne un songe, c'est toujours différent en fonction de la personne et en fonction de ce que vit la personne à cette époque. Y a un petit livre sur... avec les jeunes, on parlait de la Trinité, on posait quelques questions. Et la Trinité, c'est pas simple. Alors du coup, j'ai acheté un petit bouquin pour essayer de mieux le comprendre, pour mieux l'expliquer, même si ça restera un mystère. Voilà. Et dans ce petit bouquin, il y avait une citation de Chesterton, je crois que c'est un théologien, qui dit « Il y a un nombre infini de positions qui nous font tomber, mais une seule position d'équilibre. » Et j'ai une autre citation. Être sain d'esprit, c'est plus téméraire que d'être fou. C'est l'équilibre d'un homme tiré dans une course précipitée par des chevaux lancés à toute allure. Il se penche d'un côté et d'autre, avec un balancement qui a la grâce d'une statue et la précision de l'arithmétique. Voilà. C'est très joliment dit. Mais c'est pour dire que voilà, c'est pas une position figée. C'est toujours l'équilibre. On donne l'exemple de la personne qui marche sur le fil. Elle peut pas rester... elle a besoin de bouger, de sans arrêt rééquilibrer les choses, justement, pour tenir. Et c'est ce à quoi nous appelle ce à quoi Dieu nous appelle dans nos vies aussi. Vraiment cet équilibre. Alors, je vais développer un petit peu plus vivre une vie à fond dans le travail. Donc, comme j'ai dit, il y a tous les autres domaines, hein, la famille, le relationnel, Dieu, etc. Mais justement, comme j'ai dit tout à l'heure, hier, j'étais à un petit séminaire, je ne sais plus le mot, une petite conférence sur le sujet ambition et carrière. Donc là, tout le monde a compris que j'ai fini mon message hier soir. Merci. Dieu veut qu'on vive la vie en abondance dans le travail, parce que souvent, vous pouvez avoir entendu, peut-être l'avez-vous dit vous-même, vous arrivez le lundi, vous dites comment ça va, ah bah c'est un lundi, comme un lundi. Ou alors vivement le week-end, ou alors il est l'heure de partir, il n'est plus que 5 minutes et puis j'y vais. Enfin voilà, et puis il y a les acharnés du travail qui décollent plus que ça. Et dans tout ça aussi, je pense qu'il y a un équilibre à avoir, mais il faut, je pense, Dieu nous appelle à vivre vraiment la joie dans le travail. Il expliquait que l'ambition, c'était Jacques Blocher, je crois. Il expliquait que l'ambition avait un sens assez péjoratif et égoïste. Si on regarde les définitions dans le dictionnaire, effectivement, moi, je n'avais pas forcément cette définition dans la tête. Peut-être vous, je ne sais pas. Mais effectivement, dans les définitions, c'est quelque chose qui est assez égoïste. Au cours des siècles, ça a un peu évolué, mais c'est resté quand même assez mauvais. Il disait aussi que l'ambition dans le travail, c'est parfois vécu comme une frustration vécue dans la culpabilité. C'est-à-dire qu'il faut, mais il ne faut pas, donc j'ose pas. Bref. Il nous faisait réfléchir sur le fait que l'ambition, elle avait été détournée. C'est-à-dire qu'avec le péché, tout a été déformé. Et notre ambition première, c'était de chercher l'approbation de Dieu et lui rendre gloire en toutes choses. Avec la chute, l'ambition, ça a changé de cible. Au lieu que ce soit Dieu, la cible, c'était les hommes. Donc, rechercher l'approbation des hommes, rechercher la gloire de l'homme, rechercher pour soi. Mais, comme avec toute chose avec Dieu, l'ambition peut être réhabilitée. On peut vraiment racheter l'ambition. On peut être ambitieux pour le Seigneur. William Carey, un missionnaire du XVIIIe siècle, a dit « Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu et tentez de grandes choses pour Dieu. » C'est aussi des choses qu'on a pu entendre avec RNC, les différents messages par rapport à l'implication dans le travail, le fait que voilà, c'est pas quelque chose à côté. Enfin, vous avez entendu les messages, donc je vais pas les répéter, mais ça va dans le même sens. Et il nous faisait réfléchir, et ça aussi j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble à ça, et c'est vrai que ça ne concerne pas que les jeunes, ça concerne tout le monde, je pense. De voir le travail comme une vocation. Du coup, on peut être ambitieux. C'est une vocation pour Dieu. Dieu nous donne une mission, donc ce qu'on veut faire, c'est rendre gloire à Dieu. Et j'ai beaucoup cette phrase qui est assez importante. Aucune sphère de l'activité humaine ne doit être exonérée de donner gloire à Dieu. Aucune sphère de l'activité humaine, donc tout ce qu'on fait, tout sans exception, ne doit être exonérée de donner gloire à Dieu. Il y a le verset que vous connaissez, hein, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ça va dans le même sens. Le travail accompli en lui-même est un champ de mission. Alors ça, j'ai bien aimé parce qu'il a un peu développé. C'est-à-dire qu'on ne va pas au travail pour évangéliser. On peut. On est un témoignage par notre comportement, plus souvent d'ailleurs, parce que ça parle très fort. Mais le travail bien fait et une ambition saine, c'est un champ de mission pour Dieu. C'est répondre à ce que Dieu nous demande. Quand on dit toujours... En blaguant, il y avait le travail avant la chute. Dieu nous avait donné le travail et la terre, de s'occuper, etc., avant la chute. Donc le travail n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Et enfin, vous le savez tous, vous l'avez entendu. Mais voilà, de vraiment voir ça comme quelque chose que Dieu nous donne à faire, comme une mission. Après, il y avait des réflexions sur le fait que, oui, mais comment être ambitieux dans le travail? Je veux dire, on est dans le monde. Je veux dire, parfois, il y en a qui nous disent de mentir. Si tu veux vraiment accéder à telle position, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, d'accord. Et tout simplement, dans Matthieu 10, 16, Dieu nous a dit « Oui, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais soyez rusés et prudents. » Dans d'autres versions, il disait simple. Mais les deux. Dieu nous dit d'être rusés et prudents. Donc, on peut trouver des moyens honnêtes devant le Seigneur de vraiment être à sa place dans le travail et d'être vraiment ambitieux et de vraiment voir plus loin, quoi. De pas, enfin, si Dieu nous conduit dans une direction ou une autre, faut pas refuser les promotions. Enfin, je veux dire, encore une fois, il y a un équilibre à avoir. Dieu nous dirige, Dieu nous guide, et à nous de l'écouter. Mais c'est pour dire que c'est pas un problème. Justement, il donne l'exemple d'une personne, d'une jeune personne, qui travaillait très bien, qui était très très douée dans son travail et qui avait des promotions, mais elle le refusait parce qu'elle avait peur que ce soit pas bien, parce qu'elle pensait que voilà, il faut pas chercher. Faut pas chercher les bonnes choses comme ça dans le travail. Bon, c'est dommage. Le travail, qu'il soit séculier ou ecclésial, c'est un mandat à remplir pour Dieu. Si Dieu le voit de la même manière, que ce soit le travail séculier ou ecclésial, bah, nous, on doit y réfléchir un peu. Comment est-ce qu'on voit le travail ? Est-ce qu'effectivement, c'est une parenthèse entre deux week-ends ? Est-ce que c'est ce qui remplit les journées en attendant, je sais pas, les vacances ? Enfin, je sais pas, à chacun de se poser la question. Et encore une fois, j'insiste sur la notion d'équilibre. Parce qu'on a plusieurs mandats dans nos vies, on a plusieurs missions. Et selon les périodes de nos vies, ça change. Vous avez tous plusieurs mandats dans votre vie. Donc vous avez une vie de travail, vous avez une vie familiale, vous avez une vie d'église, vous avez une vie de loisirs. Il y a plein de choses. Et il faut trouver cet équilibre. Et selon les époques de la vie, ce sera différent. Je pense, c'est vrai que souvent ma mère, je me souviens, disait que quand on était petit, donc je pense que c'est valable pour toutes les mamans ici, bah vous êtes moins présente forcément dans, je sais pas, les réunions de prière, vous êtes moins présente dans les différentes activités parce que c'est un moment où vous élevez les enfants et vous avez besoin, voilà, et en plus si vous avez un travail, c'est encore plus épuisant, donc voilà, il y a un temps pour tout. Après, vous êtes peut-être plus libre ou avant, quand vous êtes, il y a différentes périodes de vie dans votre travail aussi, il y a différentes périodes et il faut pas se dire bon voilà, moi je vais faire ma vie comme ça, je vais la construire, donc 50% le travail, 30% la famille, voilà, et ça bougera pas. Bah non, tout a son importance et vraiment de toujours être dans cette situation d'équilibre, comme on disait tout à l'heure, la petite citation, c'est vraiment important de se remettre en question finalement. À chaque jour c'est différent, chaque année c'est différent. Et c'est là, cette relation qu'on a avec le Seigneur qui nous permet d'avancer et de trouver cet équilibre. Pour avoir de l'ambition qui honore le Seigneur, pas seulement l'ambition pour être le meilleur et réussir, mais qui honore le Seigneur, et la pratiquer, il faut trois choses. La persévérance, donc là on trouve la symétrie avec la foi, donc les Hébreux 11, dans les héros de la foi, il aura fallu la persévérance pour combattre le bon combat de la foi. Il faut accepter le risque. Accepter le risque, c'est aussi accepter qu'on ait des limites. On est humain. Et il faut faire confiance à Dieu. Parfois, Dieu va peut-être nous dire, tu quittes ton job, là où dans lequel tu es, et tu vas aller travailler à cette entreprise, j'en sais rien. Il y a un gros risque. Vous avez peut-être des crédits à rembourser, vous avez peut-être sur une famille... il y a des risques. Mais si c'est Dieu vraiment qui vous le montre, voilà, il faut accepter les risques et faire confiance à Dieu. Et ensuite, il faut accepter la possibilité de l'échec. William Carvey a dit « Je n'ai pas peur de l'échec, j'ai peur de réussir dans des choses qui n'ont aucune importance. » J'ai trouvé ça intéressant. Je pense que des fois, je l'ai réfléchi pour moi, je dis oui, je pense que des fois, je suis trop contente de moi, j'ai réussi dans des trucs, mais ça n'a aucune importance. Ça ne va pas changer ma vie ou la face du monde. Donc voilà, je vous encourage. Et il y a eu un très bon message de fait sur l'échec par Michel Hubert. Je vous invite à l'écouter. Donc je ne vais pas m'étendre plus. Mais voilà. Il faut voir, effectivement, en tant que Français, on a une vue sur l'échec qui est pas géniale. Et je pense que Dieu nous apprend à le voir différemment. Regardez dans la Bible tous ceux qui ont échoué là où ça les a amenés aussi. Parce que voilà, l'échec n'est pas que négatif. Donc voilà, ça je vous invite à le réécouter si vous avez encore des soucis avec l'échec. Donc je le réécouterai. Vraiment, c'est important. Je vais réussir à tenir les temps. Il y avait deux points d'attention qui étaient donnés par rapport justement à l'ambition dans le travail. Et donc moi, je refais la boucle avec le fait de vivre la vie en abondance dans le travail. Il disait qu'il fallait faire attention à deux choses. Chez les jeunes particulièrement, mais encore une fois, ce n'est pas vrai que chez les jeunes, c'est qu'il y a un manque, une absence de volonté, de projet et de désir professionnel. Donc là, je pense que vous pouvez le voir autour de vous. Et c'est pas par c'est pas parce qu'ils sont pas bien, c'est parce que c'est difficile. Vous avez, je sais pas, moi je me souviens quand j'étais en troisième, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Alors, il y a des trucs classiques qu'on voit à peu près ce que c'est. C'est parce qu'on voit bien le médecin, le pompier, infirmière. Enfin, voilà, les trucs qui sont, bien définis. Mais après, on vous dit ingénieur, tu veux faire ingénieur? Ouais, mais ingénieur, c'est quoi ingénieur, en fait? C'est quelqu'un d'intelligent qui fait des plans? Enfin, j'en sais rien. Enfin, c'est pas évident. C'est pas évident de choisir. Et du coup, il expliquait qu'il faudrait peut-être qu'on accompagne parfois plus les jeunes, de dire... ce que c'est, comment, enfin voilà, en discuter les uns avec les autres. Mais après, il disait, c'est pas que les jeunes, ça. C'est-à-dire que les jeunes, c'est difficile parce qu'il faut faire un choix et c'est très abstrait. Mais après, chez les moins jeunes, se dire, bon bah voilà, comme on disait, on vit la vie au travail, on fait les 35 heures, on se contente de ça, on essaie de faire ce qu'on doit faire, quoi. Mais pas de volonté de se plaire au travail, pas de volonté de se réjouir. Alors là, si vous voulez lancer le sujet avec Olivier, je pense que vous en avez pour des heures, parce que c'est un peu un de ses dadas. Ça, voilà, c'est pour en avoir discuté avec lui, sûrement beaucoup parmi vous. Voilà, c'est important. Enfin, je pense à Alexis et Mine, ils doivent s'éclater dans ce qu'ils font. Le peu de fois où j'ai parlé avec eux de leur boulot, on sent que voilà, c'est génial. Et moi, je trouve ça super. Et c'est important d'avoir des gens en face de nous qui se réjouissent dans leur travail. Et encore une fois, c'est pas la fin en soi. Le travail, c'est pas... votre vie, c'est une partie de votre vie. Et elle doit être importante et elle doit être réjouissante. C'est ce que Dieu veut, en tout cas. C'est pas moi qui vous dis ça. Je pense vraiment que voilà, Dieu nous appelle à ça. Il donnait l'exemple aussi de Paul. Paul, il était l'apôtre que vous connaissez, mais il était aussi fabricant de tentes. Et je pense que si vous voulez être crédible par rapport à ce qu'il disait, ça devait être un bon fabricant. Et qu'il devait faire des prix intéressants quand même. Enfin voilà, je pense que c'est vrai, je pense que s'il devait vivre ce qu'il prêchait dans ce travail-là, il devait y avoir quelque chose qui suivait, quoi. Mais dans toute chose, Dieu nous demande de le faire avec excellence et pour sa gloire, pas pour la nôtre. Le deuxième point d'attention qu'il soulevait, c'était que parfois, il peut y avoir une polarisation excessive sur un domaine au dépit des autres. Donc justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, soit... il n'y a que le travail qui compte, et puis le reste, bon, ça passe quand on a le temps. Ou alors, que l'église locale. Il n'y a que, comme je disais tout à l'heure, le travail, c'est une parenthèse entre deux week-ends, où je vais enfin pouvoir aller à l'église, je vais enfin pouvoir faire ci, je vais enfin pouvoir ça. Alors attention, encore une fois, c'est très bien, il faut s'impliquer, il faut des gens impliqués dans l'église. Mais tout a son importance. Dieu nous invite à un équilibre. Donc vraiment, quand on est au travail, on est dans la joie, on le vit à fond. Quand on est à l'église... on s'implique à fond et on y va. Quand on est dans la famille, on profite du temps avec les enfants, on profite du temps avec sa femme, avec son mari. Enfin, voilà, dans toute chose, Dieu nous appelle à ça. Et c'est vraiment ce que Dieu nous appelle, je pense vraiment. Et voilà, bon, je me répéterai en disant ça, mais très vite fait, encore une fois, l'équilibre, donc ça sous-entend un mouvement, donc c'est continuellement réajuster les choses, se reposer, se remettre en question. Et encore une fois, pas pareil sur les temps de vie. Donc chaque époque est différente. Donc voilà, pour finir, yes. Dieu nous invite à vivre pleinement la vie en Jésus avec son esprit. J'ai réussi à glisser la Trinité. C'est important. Pour ça, il nous faut une communion constante avec lui. Prier sans cesse, ça veut effectivement, on en parlait aussi avec les jeunes, ça, c'est parfois on a l'image, on voit quelqu'un au pied du lit, à genoux, entre les mains jointes, en train de prier. Si vous faites ça, vous ne faites plus rien, et puis vous allez finir par mourir, parce que si vous faites que ça, vous ne mangez plus, vous ne dormez plus, enfin voilà. Donc soyons un peu, allons au-delà de l'image de base, et vraiment, prier sans cesse, c'est être en communication constante avec Dieu. Et ça, on peut le faire à n'importe quel moment. Et donc, je dirais, pour ceux qui ont les téléphones, tout le monde maintenant a des smartphones, quasiment, enlevez pas la 4G, laissez-la tout le temps, et ne vous mettez pas en mode avion. Alors, ne reprenez pas l'image de l'avion de tout à l'heure, là, c'est autre chose. Vous rentrez dans l'avion, mais voilà, il faut rester connecté avec Dieu en tout temps. Et ça, vraiment, ce Dieu de relation, il veut pouvoir nous parler... à chaque moment. Moi, j'aimais bien cette image de... m'avait toujours fait rire de John Beverley, qui disait qu'il était content, il arrivait à passer ses 2 heures le matin à prier, puis ensuite, il faisait sa journée, et puis comme ça, il avait réussi à maintenir le rythme. Puis à un moment, le Saint-Esprit lui parle, il lui disait, mais tu sais, moi, j'aimerais te parler à n'importe quel moment. Et il disait, mais imagine que... Donc sa femme, c'est Lisa, John et Lisa Beverley. Il disait, imagine que donc, le matin, tu viens, t'es content, tu te lèves et tu veux parler à ta femme. Puis ta femme dit ah, blablabla, elle raconte plein de choses. Et puis lui, il a pas le temps de placer. Il dit ah bon, on se voit ce midi, hein, chérie. Ok, bon, on va se voir ce midi, cool, je suis contente d'aller voir ma femme. Je vais pouvoir lui raconter deux, trois trucs que j'ai vécu ce matin. Il se voit le midi. Et puis là, donc la femme, Lisa, blablabla, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait là, est-ce que tu pourrais faire ci, tu pourrais réparer ça oui, il n'arrive toujours pas à en placer une, quoi. Et ok, d'accord, bon, allez, ce soir, on va se voir, ça va être cool. Bon. Je vais pouvoir lui raconter, c'est vrai, ce matin, ce midi, on n'a pas eu le temps. Mais... Et puis arrive le soir, et puis voilà, Lisa qui reparle toute la journée, machin, machin. Puis ah, non, désolé, maintenant je vais me coucher. Et puis lui, voilà, toute la journée, au final, il a été un peu dans sa présence, mais il a jamais pu en placer une. Et il disait, bah voilà, avec moi, donc le Saint-Esprit, c'est pareil. Moi, je veux pas juste ces deux heures-là de créneau où, en plus, tu vas faire que parler et tu vas pas m'écouter. C'est constamment dans la journée, je peux te passer un coup de fil, entre guillemets, te parler et t'écouter. Et cette histoire, bon, il la raconte bien mieux que moi, avec beaucoup plus d'exemples. Voilà, mais vous avez l'idée, je pense. Je trouvais ça assez intéressant, parce que c'est vrai, c'est ça ce à quoi Dieu nous appelle, cette relation, cette communion constante, où on est sans cesse à l'écoute et sans cesse on peut lui parler. Dieu nous guide, il gère. Mais il nous demande aussi de faire des choix. On peut faire des choix sages quand on grandit en lui. Donc je reprends l'exemple du bébé qui grandit, hein, à force de connaître sa parole et de le connaître, on sait aussi ce qu'il aime et ce qu'il haït. Et Dieu nous appelle à cette maturité-là aussi. Donc quand on connaît sa parole, qui est esprit et vie et qui est la vérité. Donc je vais prendre quelques derniers versets, le psaume 119 en entier. Il est très beau, ceci dit, à chaque fois on dit ça, mais je l'aime beaucoup. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment, quand on est pur, avoir une, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C'est en se conformant à ta parole, je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc ça parle de lui-même, hein, le texte, mais... Voilà, comment ne pas pécher contre Dieu, c'est en gardant sa parole contre son cœur. Alors, pas ça, mais vraiment connaître, manger la parole, la méditer. Et on avait cette réflexion-là aussi de dire que c'est pas le nombre de chapitres par jour qui va changer les choses. C'est, vous pouvez lire un seul verset, mais si vous méditez dessus toute la journée et que Dieu vous parle par rapport à ça, ça aura bien plus de valeur que si vous avez lu 5 chapitres le matin et que... T'as retenu quoi de ta lecture ? Bah, j'ai lu 5 chapitres. Mm-hmm. Donc voilà, des fois on est un peu légaliste comme ça, des fois on se dit allez, j'ai lu mes chapitres, c'est bon, c'est bien. Mais voilà, Dieu nous appelle encore une fois à cette relation. Pour cette vie en abondance, il veut nous parler spécifiquement. Le proverbe 4, versets 21 et 22. Et encore une fois, c'est pour notre bien. La vie, c'est pour notre bien. La vie qu'il veut nous donner. Proverbe 4, 21 et 22. Ne perds pas de vue mes conseils, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. Ça, je trouve ça génial en plus. Non seulement ça nous fait du bien, ça nous aide pour nos choix, mais en plus, c'est, ça apporte la vie et la santé. Qui veut ? C'est vraiment important. Les conseils de Dieu, sa parole apporte la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. Vraiment important. Donc voilà, je voudrais finir en vous encourageant à vivre pour Dieu, en Jésus, avec l'aide de son esprit, dans toutes les sphères de nos vies. Je nous invite, parce que ça me concerne à fond. Hein. Dieu nous invite à vivre pleinement, et il nous donne sa vie. Et il ne nous donne pas un tiers de sa vie, un quart de sa vie, une moitié, il nous donne tout. Et donc si je reprends mon image du début, dans l'avion, hein, vous bénéficiez de tout, tout ce qu'est Dieu, tout ce qu'est Christ. Et vivre pleinement, c'est ça, vivre vraiment... de tout ce qu'est Dieu, de toute sa grâce, de toute sa bonté, de son amour, sa paix. Tout ça, c'est en nous, puisqu'il est en nous, et c'est autour de nous, puisqu'on est en lui. Pour vous encourager, comment vivre cette vie pleinement en Christ ? Vous pouvez, parce que dans Philippiens 4, 13, il dit « Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie ». Donc j'espère vraiment vous avoir encouragé ce matin, et je vais vous laisser avec un dernier verset. Colossiens 1, 9 à 12. Vraiment pour vous bénir, je veux vraiment lire ces versets. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière, à ceux qui lui appartiennent. Vivez pleinement.